52e édition des Jeudis en question. Donc c'est la 7e année qui démarre, sans interruption. Donc le sujet aujourd'hui, alors le titre du flyer c'est quoi déjà? C'est l'art doit-il être accessible? L'art doit-il être accessible? Parce qu'on a tellement tourné la phrase dans tous les sens. L'art doit-il être accessible à tous? Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on met à tout prix? Est-ce qu'on met pas à tout prix? Est-ce qu'on parle de la culture que de l'art? Voilà, on a creusé un peu tout ça. Voilà. Et donc finalement, ça a été ça le sujet. L'art doit-il être accessible à tous? Les prochains sujets qui seront traités, donc le mois prochain, le sujet, ce sera le handicap. Donc handicap et société, sous l'axe sociétal, donc avec l'idée liberté, égalité, fraternité et handicap, tout ce qu'on peut mettre en lien là-dedans. Et ensuite, on traitera de la question philosophique de la mort, avec un philosophe qui viendra nous animer la soirée. Alors, on sait pas dans quel, je ne sais pas trop dans quel ordre, il y aura la mort et il y aura les Kurdes.
C'est un peu lié.
La mort, elle est déjà faite.
Avec les Kurdes, entre autres. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Quoi de plus? Donc, n'oubliez pas en partant le petit chapeau pour la soirée. Donc, les jeudis en question, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est tous les derniers jeudis de chaque mois. On change de bistrot chaque mois et on change de sujet chaque mois. Et on change d'intervenant chaque mois. L'intervenant n'est pas un conférencier. Il est là juste pour nous lancer dans le débat, nous donner envie d'échanger. Et l'objectif, c'est que chacun s'exprime et qu'on arrive à un échange sur le sujet. L'objectif, c'est de se réapproprier un peu le politique dans le haut sens du terme, on va dire. Voilà. Ici, vous avez la liste. Si jamais vous voulez recevoir les prochains sujets, la programmation, donc vous mettez votre nom sur cette liste et on vous enverra les informations. Et on cherche quelqu'un pour afficher pour les jeudis en question à Marcillac, parce que nous n'avons plus d'afficheur. Donc si quelqu'un est volontaire, n'hésitez pas, parce qu'on a un afficheur à peu près dans chaque village dans le Vallon, et il nous manque quelqu'un pour Marcillac. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire.
Puis même s'il y en a qui veulent nous rejoindre dans la fabrication des numéros successifs du mensuel, mais ça sera avec plaisir qu'on les recevra. De temps en temps, on a effectivement une arrivée qui vient grossir nos rangs.
Voilà, donc c'est pas très lourd de participer au jeudi en question à la préparation, puisque c'est en gros une réunion pour préparer le jeudi suivant. Donc on a à peu près une réunion entre chaque jeudi, où on fait le bilan du jeudi précédent et on prépare le suivant.
Et donc puis là, c'est mercredi 4.
Donc là, la suivante, c'est mercredi prochain.
Mercredi prochain, la réunion, et voilà. Le 29...
Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On aime bien se renouveler un petit peu, se renouveler. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir à tous et merci d'être là. Pour ne pas se noyer dans le sujet qui est incommensurable, tellement il est vaste, je voudrais juste poser deux, trois pierres pour permettre la discussion d'après. Je voudrais partir d'une citation d'Henri Méchonic sur l'œuvre d'art, qui est un philologue, un traducteur de la Bible, qui est mort en 2009. L'œuvre d'art est éthique, le poème est éthique, il change celui qui la regarde, qui le lit, donc il est politique. Les mutations à l'œuvre dans notre société ne sont pas qu'économiques ou sociales, elles sont aussi d'ordre culturel et associées à des mutations technologiques importantes. La dégradation du corps social en corps économique affecte la production et l'échange de nos ressources symboliques. La vitalité du corps économique, c'est la consommation. Et les activités artistiques sont soumises, elles aussi, à une logique de rentabilité, qu'elle soit financière ou sociale, Elles sont sommées d'avoir une rentabilité économique ou bien de soigner la société et d'offrir une compréhension immédiate pour tous. Je voudrais là faire appel à Bernard Noël, qui dit que l'œuvre ne se contente jamais d'être comprise parce qu'elle exige sa recréation, et la recréation est bien entendu le contraire de la consommation, qui exige quant à elle l'épuisement rapide et constant de ses produits. L'idée même de consommation culturelle est une aberration, parce que tout ce qui est essentiel dans la culture est inépuisable. Dans un système consumériste, la recherche d'une accessibilité immédiate, c'est un peu se mettre dans la réponse à une attente supposée du public. Et Michel Bouquet dit fort justement que les acteurs, nous ne jouons pas pour le public, mais pour quelque chose en eux qu'ils ne connaissent même pas. Et ça, ça me semble très très important. Le rapport aux œuvres n'est pas nécessairement de l'ordre de la révélation, du choc émotionnel, ce qui était un peu la théorie de Malraux. À l'époque, une œuvre d'art, le contact direct entre l'œuvre et le public devait produire le choc émotionnel. Et je pense qu'il n'y a pas d'évidence immédiate, sinon on rentre dans une réaction traditionnelle qu'on a lors des spectacles, ou qui est de l'ordre du « j'aime, j'aime pas ». Pour que la confiance du spectateur soit là au départ, il faudrait que l'idée d'expérience esthétique reprennent une place centrale dans la société. Et je parle là d'un livre d'un professeur en médiation culturelle de la Sorbonne qui s'appelle Serge Saada, qui publie aux éditions de La Tribu. Et Serge Saada défend l'idée d'un spectateur imprévu à qui on laisserait le temps de se construire en franchissant des territoires qui lui sont inconnus, une phase d'apprentissage que tout le monde connaît, faite de plaisir et de déplaisir, de rejets légitimes qui ne doivent pas empêcher de poursuivre l'aventure, même si on a des choses qu'on n'aime pas, on a des rejets. Il s'agit de permettre au spectateur de se questionner en élargissant le champ de sa perception dans les mille nuances entre le j'aime et le j'aime pas. De lui ouvrir la possibilité d'interpréter par lui-même, avec ses moyens propres, sans chercher la bonne explication dans un convenu social ou dans un prêt-à-porter culturel. L'œuvre n'étant alors comprise, l'œuvre étant comprise comme une proposition et non comme une explication. À la Maison du Livre, à côté du rayon poésie, il y a une citation de Jacques Dupin. Je ne sais pas si vous avez vu cette... La poésie n'existe, ne s'absente, ne surgit que pour refuser la réponse et s'approcher de la question. Voilà. On a beaucoup de définitions de la poésie qui sont un petit peu autour de ce sujet. Pour moi, la poésie, c'est un petit peu dans l'œuvre d'art, la tête pensante. La poésie est le possible qui demeure possible, l'attente qui absente, qui accepte d'attendre. Bien, la recherche passionnée et comblée de quelque chose que l'on sait ne jamais pouvoir atteindre. Olivier Michalon, le conservateur du musée des abattoirs, dit qu'il voudrait faire du musée un point de départ et non un point d'arrivée. Et ça, c'est dans l'approche de la fréquentation culturelle, c'est quelque chose qui me semble important, mettre le spectateur sur un chemin de création et évolutif, et pas un point d'arrivée devant une œuvre, devant un spectacle. Voilà un petit peu. J'ai aussi vous citer quelque chose, des vœux que m'avait envoyé Filippo de Dominici il y a 2 ans, avec une phrase d'un metteur en scène italien. Sur le spectacle, si je la retrouve, Le spectacle n'a pas besoin d'acteurs. Il est robuste, ne nécessite aucun soin particulier, si ce n'est une bonne amplification. Il distrait, il entretient, il finit lorsque l'on sort de la salle. Le théâtre a besoin d'acteurs, est fragile, nécessite une extrême protection et ne se montre qu'à partir du noir et du silence. Il attire, il retient, il commence lorsque l'on sort de la salle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous donner comme phrase pour introduire un débat sur l'accessibilité de l'art et du spectateur. Je vous laisse un peu la parole.
Alors, le contradicteur.
C'est dur d'enchaîner après ça. Hein.
C'est un débat philosophique, là.
C'est forcément une confrontation entre le... Je ne sais pas, nous on vit ça au quotidien, mais dans une association culturelle pilotée donc par une communauté de communes, on doit à la fois... On est en perpétuel mouvement entre la consommation qui rend des comptes et puis ce qu'on souhaite, nous, faire passer comme... Action culturelle et dans tout ce que ça peut avoir de riche.
Mettre le spectateur dans cette position évolutive sur un temps long, lui laisser le temps de venir sur une œuvre et ne pas être dans une confrontation du « alors, ça vous plaît ?»
Oui, au-delà de ça, c'est faire des propositions aussi qui soient suffisamment... orchestré, si je peux dire, pour que ça soit aussi, que ça puisse, que les grains puissent germer. Donc c'est forcément progressif, il faut forcément tenir compte du terreau, il faut tenir compte de la saison.
Permettre à chacun, avec ce qu'il est, avec sa culture propre, de venir jouer sur un terrain avec des interprétations, avec des...
Mais la question, c'est...
agrandir.
Comment aménager le terrain.
L'art a-t-il besoin toujours d'un intermédiateur, d'un médiateur, d'une intermédiation?
Moi, c'est ce que je défends et c'est ce que Malraux disait non. Malraux pensait l'œuvre d'art comme une révélation, c'est-à-dire que le choc émotionnel premier devait produire sans médiation quelque chose de...
Là, nous parlons, en vous écoutant tous les deux, j'entends une mise en scène de l'objet artistique. Et ma question était, est-ce que cette mise en scène par un tiers est nécessaire dans la relation entre l'art, l'artiste et celui qui est ce que tu appelles le spectateur ou qui est l'autre être humain en contact avec cet objet artistique et avec l'artiste.
Moi, ça dépend ce que tu appelles mise en scène. C'est pas une mise en scène, mais plutôt la mise en place de choses qui favorisent un terreau et qui favorisent le droit d'accéder à quelque chose. C'est mettre des conditions en place qui font que...
Je crois que l'artiste, il a besoin aussi d'avoir un alter en face. Il ne peut pas être tout seul. Je ne sais pas, Michel.
Oui. Je comprends bien ton
création.
Il peut y avoir un intermédiaire, quelqu'un qui fait la traduction, mais il ne faut pas que celui qui... Cette œuvre veut dire ça.
Voilà. Ça, c'est évident.
Non, mais pour revenir sur ce que tu évoquais, la phrase de Malraux, c'est vrai que ça, c'est dans une société idéale, c'est-à-dire dans une société de gens qui ont eu la possibilité d'être confrontés d'une façon ou d'une autre à l'art ou à la...
qui a une certaine éducation. C'est, moi, je, enfin, justement, dans la question « l'art est-il accessible à tous ?», je pense que de toute façon, c'est ça le thème, hein, c'est ça
là. Oui, oui, oui.
Oui, je pense que de toute façon...
Doit-il.
Vous savez qu'il y avait un truc qui était passé là. Mais l'art, il n'a pas à... Il n'a aucun devoir, là. En fait, oui. C'est une question qui doit être... Moi, je trouve que c'est très important, parce qu'en fait, il faut une éducation à l'art. Enfin, c'est pas possible d'arriver... Quelqu'un qui il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas ressentir si on arrive comme ça et qu'on met les pieds dans le plat, quoi. Il y a des choses qui sont... Enfin, moi, je viens d'un milieu rural. J'avais un père qui n'était absolument pas cultivé en art, qui était presque analphabète. Et je sais qu'il m'a dit parfois des choses extrêmement pertinentes, mais je sais aussi que c'était... en référence à ce qu'il voyait. C'est-à-dire que quand je parle d'éducation, ce n'est pas forcément une éducation livresque. C'est, d'ailleurs, moi, j'ai souvent procédé comme ça, chaque fois que j'ai fait des interventions dans des écoles. C'est-à-dire que je crois que ce qui est très important, c'est de voir, c'est de montrer. C'est-à-dire que l'éducation, c'est ça aussi. C'est-à-dire être confronté à... Et après... voilà, enfin, les choses, à mon avis... Mais il ne faut pas s'abaisser... C'est-à-dire s'abaisser, aller vers le public, vouloir aller vers un public, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que l'art demande un effort. De toute façon, c'est certain. Et ce n'est pas quelque chose qui est... enfin, l'art populaire, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est, l'art, c'est forcément... c'est forcément, ça appartient à tout le monde. Mais il y a des clés. Et ces clés, il faut les... Il faut les avoir. C'est pas possible. Enfin, moi, je suis amateur aussi d'art primitif. L'art primitif, on le perçoit d'une certaine façon. Mais là, on n'a pas toutes les clés. Mais on peut effectivement avoir cette approche Malraux, c'est-à-dire cette approche émotionnelle. Mais par contre, quand je regarde un tableau au Louvre, c'est pas du tout le même processus. C'est-à-dire que je connais l'histoire, je connais tous les soubassements, et là j'ai une approche qui est beaucoup plus intellectuelle que quand je regarde une sculpture du Congo. Voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des lectures différentes.
C'est peut-être une impression aussi. D'avoir l'impression d'avoir besoin de toute cette histoire pour pouvoir apprécier la peinture du Louvre et d'avoir un truc plus primaire, dirons-nous, pour aller vers de la sculpture africaine qu'on pourrait dire tribale. Alors qu'en fait, même, même dans des grottes, on peut se rendre compte que, que les personnes qui ont peint ça avaient une technique... très élaboré, ils avaient quelque chose de très profondément, même philosophique sûrement, dans leur manière de travailler. On n'a pas ces clés-là non plus pour
mais
pouvoir
je suis aller... tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu la chance de rentrer dans des grottes avec des peintures qui n'avaient jamais été... Enfin, qui ne sont pas ouvertes au public. Ça change tout. Hein. Enfin, déjà, ça change tout. Parce que quand vous arrivez avec votre petit Touloupiote et que vous voyez apparaître une expérience extraordinaire, c'est-à-dire... une grotte qui s'appelle Les Fieux dans le Lot. Là. Vous avez au milieu de la grotte, il y a une espèce de gros rocher. Et ce gros rocher, quand vous arrivez dans la salle, après un petit boyau, tout ça, vous avez l'impression de voir un mammouth. Et puis vous approchez, avec la lampe, vous voyez que le rocher a été aménagé comme un mammouth, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des défenses, ils ont mis des poils. Et ça, effectivement... il y a plusieurs lectures, c'est-à-dire que vous avez cette lecture émotionnelle, moi j'ai été, ben, c'est une image qui est vraiment gravée à moi, et après, c'est vrai que j'ai participé à pas mal de colloques sur la préhistoire, et après vous avez tous les préhistoriens qui vont se disputer sur quel est le sens, pourquoi ils faisaient ça, et, voilà, enfin, c'est vrai que c'est polysémique, de toute façon, c'est toujours polysémique.
Oui, mais cette première émotion, elle est aussi liée à la découverte. Tu as dit oui. Je rentrais dans une grotte où oui. Bon, j'avais, moi je me suis fait un film et j'ai pensé que j'étais le premier. Est-ce que, enfin, moi,
non, j'étais
que
pas ce... le premier.
Non, mais je te le traduis comme ça. Mais ouais. Il me semble que ce qui est primordial, c'est au niveau culturel comme dans d'autres domaines, c'est l'envie de découvrir quelque chose. C'est la curiosité d'aller voir quelque chose.
C'est aussi la possibilité.
Ça s'enseigne pas.
C'est aussi la possibilité.
Je ne sais pas si ça s'enseigne.
C'est très important.
Et la possibilité, les actions de médiation, la discussion médiatique.
Le temps libre donné aux gens aussi.
Et la pouvoir avoir l'accès.
Et des fois, il se passe des choses à côté de chez vous et puis vous n'y allez pas. Donc après, c'est chacun fait comme il veut ou comme il peut.
Enfin bon, on peut voir que, par exemple, dans le théâtre. Si on regarde Villard qui a démarré le TNP, où, lui, tout son truc, c'était de faire du théâtre dit populaire, mais c'était donner l'accès au théâtre. Il ne voulait pas faire du guignol ou des choses comme ça, quoi. Il voulait vraiment donner l'accès et aussi donner la possibilité de créer, aussi de jouer là-dedans.
Je crois qu'en ce moment, dans les politiques, entre guillemets, c'est bien ce qui est demandé. En fait, c'est bien ce qui est... C'est favoriser quand même l'accès au grand monde.
Oui, mais quel moyen...
Non. Je pense pas.
Quel moyen on prend dans cet accès au plus grand nombre, c'est-à-dire on va juste ce côté être un petit peu obnubilé par le nombre et par la réussite des choses qu'on propose.
Non. Favoriser l'accès au plus grand nombre, c'est-à-dire proposer à un public le plus diversifié possible dans des endroits les plus éloignés possible des lieux où traditionnellement on peut être un capteur de culture.
Enfin, quand on voit l'évolution, par exemple, d'Avignon, c'est dans le sens inverse que ça s'est passé. Par rapport au fait que le théâtre était accessible à tous, à un prix dérisoire, tout le monde pouvait y aller, c'est terminé. C'est fini. Ça n'existe plus. Le théâtre Avignon doit être rentable. Ce festival doit être rentable. C'est un truc qui s'est transformé, qui est passé du coq à l'âne, quoi.
C'est un autre...
Et c'est la même chose.
Que pour les troupes, il n'est pas rentable.
Mais est-ce que c'est pas... Enfin, est-ce que justement, le truc, c'est pas de recommencer ailleurs, parce que le problème, c'est devenu une institution, quoi.
Oui, bien sûr. Oui, de recommencer.
Ouais. D'ailleurs, c'est là où les choses... deviennent compliquées. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi... Enfin, moi, je ne peux pas parler de théâtre, je ne connais pas assez bien, mais par exemple, les musées sont souvent des repoussoirs pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas y rentrer parce qu'ils ont peur, parce que ce n'est pas pour eux. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là.
Il y a un travail de désinhibition à faire pour justement l'accès, que ce soit à des salles ou que ce soit à des musées. Oui. C'est ce premier travail, cette première marche-là. Qui est à ce que tu appelles donner la vie. Oui, mais
on va sortir les œuvres d'art des musées, au contraire.
L'autre jour, sur Pompidou, il y avait.
Ça c'est plus discutable, sortir les œuvres d'art des musées.
Et les rendre humaines, vivantes.
Ça, alors là, ça peut se discuter, parce que ça peut être aussi... bon, je vais parler des gens, parce que...
Fini ta phrase.
Ça peut être très démagogique.
Tout peut l'être.
Non, mais ça particulièrement. C'est-à-dire, l'art dans la rue, tout ce bazar-là, moi, je trouve que c'est un peu démago, quoi. C'est-à-dire que...
L'artiste ne veut pas être dans la rue. Hein. Il veut être au musée.
Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais c'est le fait de. C'est pas les artistes qui demandent de ça. Hein. C'est plus une espèce de politique qui se veut populiste. Moi, je dirais que c'est du populisme. J'aime pas le populisme.
Je crois que la question, au lieu de l'art doit-il être accessible à tous, c'est est-ce que doit-on rendre l'art accessible? Parce que même on a voulu le mettre dans la rue, si on ne rend pas accessible, s'il n'y a pas une démarche quand même pour donner les clés d'approche, on peut mettre tout ce qu'on veut devant, si on ne sait pas le lire.
Marie-Pierre, tu dois. Je pense qu'il y a
deux sens entre accès. C'est une fois accès dans le mouvement, je vais au musée et je me plante devant le. Je vais au théâtre, je regarde la pièce, l'accès de mon corps devant cette œuvre, et après accès au sens.
Ouais. Au sens.
Et je pense qu'il faudrait, quand on discute, il faut distinguer entre ces deux accès. Parce que, par exemple, à Londres, il y a tout un tas des musées magnifiques qui sont gratuits.
Oui, tout est gratuit.
Tout est gratuit. Tu peux décider entre... Tu rentres à la maison, tu as encore une demi-heure de temps, tu rentres en Tate Modern, tu regardes toi ta... tableau et tu ressors.
C'est une politique complètement différente. Ouais. Mais
en
Angleterre,
il y a
des urnes. Il y a des urnes pour que les gens mettent des sous. Et tous les Anglais payent.
Ouais. Oui,
selon leur revenu.
Oui.
Les touristes étrangers ne payent pas. Ouais. Ouais. Arrive, j'ai gagné au moins ça.
Non,
la relation n'est pas la même. La relation,
je pense qu'il y a quelque chose de culturel.
La culture, ça met des sous dans les
yeux. Ah bon.
Je pense, oui. Dans la discussion, je pense que c'est important de quoi on parle. Oui. Accès.
Ça, on est dans quelque chose. En Angleterre, ils ont un musée de la ville de Londres qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas reçu un centime d'argent public. Ils ont mis des urnes transparentes dans tout Londres en disant ce musée est le vôtre. Ou apporter des choses. Et le musée s'est fait entièrement avec l'argent des Londoniens. On est dans un rapport aux États-Unis et en Angleterre qui n'est pas le même. Le rapport au public et à la chose publique et à l'État n'est pas le même que.
Il faut voir des gens qui habitent
Londres. Oui, c'est pas des gens qui habitent à Saint-Lazare, oui. C'est ceux qui habitent au Londres.
Oui. Il y a un avion de...
Il
y a un avion de temps en temps.
Ça, oui.
Alors, on va introduire un autre terme dans le débat. C'est-à-dire que, bon, effectivement, sur l'accessibilité, oui, il y a la question de l'accès à l'œuvre, de l'accès au sens. Oui. Mais j'avais un peu envie de changer le terme. Et de transformer accessibilité en proximité. C'est-à-dire, quelle est la proximité entre l'art et la société, entre les artistes et les gens? Je trouve que déjà la formulation de la question du débat, l'art doit-il être accessible à tous, suppose déjà la distance. C'est qu'il y a une distance à franchir. Je pense que cette distance à franchir, elle est tout un héritage culturel, issu du passé, issu de l'académisme, issu de l'élitisme. Enfin bon, c'est pas pour rien que cette distance existe aujourd'hui. Moi, personnellement, ma conviction, c'est que il manque dans la culture dominante. Un questionnement sur cette proximité. C'est-à-dire que l'artiste est un créateur de sens interrogatif, comme tu l'as développé dans plusieurs de tes citations, ça te rejoint tout à fait, mais je pense aussi que beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas artistes, qu'ils vont vers un espèce d'être complètement bizarre, qu'on appelle artiste, d'être rare, effectivement on s'approche difficilement sans qu'il y ait la conscience que finalement, et c'est ce que certains artistes contemporains dans des discours variables, on apprécie certains et pas d'autres, mais disent, mais chacun est artiste, c'est-à-dire chacun est l'artiste de sa propre vie. Et donc là on est sur la question de la proximité, pas seulement de l'accessibilité.
J'aimerais comprendre la différence. Moi, je suis très d'accord avec la proposition « Chacun est artiste de sa propre vie
ouais. »,
mais pas d'accord avec la proposition « Chacun est artiste ».
Oui, je suis d'accord.
Oui, non, mais ça...
Tous
des artistes. Ok, mais je veux simplement dire que quand on dit « Chacun est artiste de sa propre vie », il y a une proximité avec le monde de l'art, qui est différente que si on dit c'est un monde à part auquel il faut avoir accès. Ce n'est quand même pas les mêmes positions.
Tout ce que je disais de cette mise en perspective d'un spectateur créateur évolutif par rapport à une démarche sur au contraire d'un spectateur passif et consommateur, va dans le sens de ce que vous dites.
Oui, okay.
C'est après, il y a des œuvres à appréhender et il ne s'agit pas de demander aux artistes de niveler un niveau de création ou de descendre pour se mettre à la portée de quelque chose, pour retrouver une proximité qui est très fallacieuse et qui n'existe pas à mon sens.
Oui, c'est pas de cette proximité-là.
Voilà. C'est...
Chacun a un potentiel.
Si on met le spectateur en situation d'infériorité et il va accéder au... Là,
oui.
On crée toutes les difficultés pour qu'il n'y arrive pas.
Exactement.
Si on ouvre les lieux d'accès avec de la médiation et qu'on rend ces lieux ouverts à tout le monde en ne mettant pas des barrières symboliques qui empêchent l'accès, on se rapproche de ce que vous dites et d'une proximité.
Oui, en fait, moi, je voulais revenir sur le fait que chacun est artiste de sa propre...
Vie.
Mais tout le monde n'est pas artiste. En fait, est-ce que tout le monde peut être artiste? Est-ce que tout le monde peut être artiste?
Ça, c'est qui peut juger?
Qui peut juger et qui peut dire ça c'est de l'art et ça ça ne rentrera pas dans un musée? Comment excusez-moi, mais
moi je pense que le
La première accessibilité à l'art, pour moi, c'est de dire aux gens, vous avez tous la possibilité d'avoir vous avez tous un pouvoir créatif.
Oui.
Vous avez tous la possibilité de pouvoir utiliser des modes d'expression.
Oui.
Vous pouvez les découvrir et vous découvrir et être découvert par d'autres. Et peut-être que le regard de l'autre considérera que ça ne vaut rien de votre vivant, de votre contemporanéité, mais que peut-être on retrouvera une trace un siècle plus tard de quelqu'un qui n'a jamais été reconnu qui est considéré comme une œuvre primordiale un siècle plus tard, quoi.
C'est une question extraordinaire.
Je suis persuadé qu'on a tous une possibilité créatrice, et que les gens se sentent justement inférieurs aux personnes qui peuvent avoir cette liberté de se dire, moi je crée, je fais quelque chose, je crée, et une grosse partie des gens se disent, moi je suis incapable, pour moi ça me dépasse, je trouve ça magnifique, ou je suis complètement dépassé par ça, alors qu'ils ont tous ici cette petite chose se passer dans chacun la compréhension de la possibilité d'une créativité ou d'une création, et ben là l'accès à l'art serait pratiquement universel.
C'était avant que l'école les décourage.
Je peux vous suivre, moi, sur une partie de ce que vous dites sur le fait que tout le monde a en lui un potentiel créatif et puisse l'exercer. Après, il y a des gens qui ont une nécessité à dire quelque chose.
Oui.
Ont quelque chose là qui pousse à faire que ils vont aller dans du risque, prendre tous les risques pour aller faire quelque chose, abandonner des choses pour aller vers ce risque et en faire quelque chose de leur vie. Et cette nécessité-là, ça devient leur sens de vie et leur chose. Et on n'est pas dans la même chose entre quelqu'un qui peint le dimanche et quelqu'un qui pense avoir quelque chose à dire en peinture et va y consacrer sa vie, accepter des conditions de vie ou des choses qui sont particulières. Et il y a des choses, moi je dis, dans le sport, quand quelqu'un va courir autour du jardin public, il n'appelle pas le public pour le regarder. En matière de culture, dès qu'on a posé trois trucs, on appelle quelqu'un pour venir voir. Et on vient de passer une période sociétale où la mise en avant de l'individu par rapport au collectif, il faut être, il faut exister, il faut avoir quelque chose de soi, pousse à pousser beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu autant d'expositions, autant de choses créatives. Il y a 700 000 bouquins qui paraissent chaque année. Il n'y a pas 700 000 œuvres de littérature. Aujourd'hui, les possibilités pour les jeunes de faire quelque chose, de créer ou tout ça, sont assez ouvertes. Après, quand on travaille avec des artistes, moi je disais à des comédiens, allez passer deux week-ends chez Mouchkine, vous comprendrez ce que c'est qu'être artiste. Qu'à 8h du matin, que vous ayez perdu votre père la veille ou tout ça, vous êtes là et ça doit sortir, c'est pas venir le dimanche répéter une heure, et on n'est pas dans le même stade de la nécessité et de la... Donc moi j'ai un petit peu cette différence là sur par rapport à ce que vous dites.
Léna,
je dis tout le monde a moi je dis autrement, moi j'en ai pas. C'est quelque chose qui n'était pas disponible quand je suis née. Heureusement, vendredi après-midi, il n'y en avait plus. Mais je veux quand même avoir cet accès. Moi personnellement, je suis incapable de créer quoi que ce soit. Oh. Mais je vais quand même avoir cette possibilité d'accéder. Hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Et je trouve super intéressant quand tu dis... accéder à la culture, c'est pas t'asseoir dans une pièce de théâtre et que de regarder et de sortir et dire oh bon, on a vu un joli théâtre. Mais si jamais cette pièce de théâtre était capable de te faire repenser et penser encore une fois et repenser à cette pièce de théâtre, là t'as eu accès à quelque chose. Ça, je trouve super intéressant. Dans ta définition que tu avais tout à l'heure.
Mais là, si tu accèdes à tous les autres peuvent être toi dans cette disposition d'esprit. Donc, c'est une façon de rendre l'art accessible. Du moment où on ouvre les portes d'un théâtre, la pièce doit être assez forte pour que ça bouge dans la tête, comme tu viens de le dire.
Il y a des acceptabilités que j'accepte,
moi,
que j'accepte pas. Quand on fait les 100 ans du musée de Nupuèche, on ouvre un musée gratuit. Sophie m'appelle pour venir l'aider à garder. On voit des centaines de gens monter avec de la crème partout, marcher sur les trucs. On est dans Disneyland. Et on n'est plus dans une accessibilité.
On est dans l'événement.
On a des exemples de veulerie et de goujaterie favorisés par l'institution. Où je suis.
Ça fait
mal au ventre. Quand vous y êtes, je vous assure, ça fait. Vous avez un spectacle qui vous éloigne de tout ce que vous défendez, de tout ce que vous voulez faire. Et il y a une part de la défense de l'accessibilité qui va vers ça, qui va vers.
Mais à toutes les époques, depuis très longtemps, les œuvres d'art ont été faites pour faire passer des messages. Que ce soit dans les grottes, que ce soit les cathédrales, que ce soit...
Moi, je crois pas. Moi, je crois pas.
Pas uniquement, mais beaucoup.
Je crois qu'il faut
séparer le symbole, l'œuvre d'art symbolique, qui est faite pour le message, de l'œuvre d'art émotionnelle. Déjà au départ.
Ce que je voulais dire tout à l'heure, mais on a un peu la conversation un peu déviée, c'est par rapport à la position, cette espèce de droit à l'art pour tous. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais choisi d'être artiste, ça m'est tombé dessus. Pour moi, c'est une forme d'infirmité presque, parce que vous savez, vous perdez beaucoup de choses aussi, quand vous, parce qu'il faut renoncer à beaucoup de choses, et c'est pas du tout quelque chose de facile. Je le dis, j'enseigne aux beaux-arts. Et je dis aux gens, si, euh, si il faut vraiment, enfin, quand on voit le déchet, parce que vous parlez de déchet quand même, qu'il y a dans une école d'art, le nombre de gens qui s'arrêtent en cours de route, parce que c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de, c'est une, juste une question de motivation, parce que il faut tenir, il faut, et ça, c'est pas un choix, c'est quelque chose que vous portez ou que vous portez pas, c'est tout. Et c'est terminé après. Et c'est pas que vous avez envie de dire quelque chose, hein. C'est quelque chose que vous avez au fond et qui sort ou qui sort pas. Si vous ça sort pas, vous avez des chances de finir à l'asile. Mais bon. Attendez, je finis. Après, il y a autre chose. C'est que effectivement, il y a une grande rupture. C'est en 1915 avec Duchamp. Où Duchamp a dit l'artiste, c'est celui qui dit qu'il est artiste. Et c'est vrai que là, ça a changé beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais moi, je suis pas dans la position du champion. Je suis dans une position où je subis le truc. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas.
Je suis une victime.
Moi, je suis plus dans une position du champion. Et je suis aussi d'accord sur le fait que quand j'ai lu Bataille qui disait que la seule manière les artistes, un artiste, un créateur, c'est quelqu'un qui s'évite la folie, quoi. Soit c'est un fou qui arrive à avoir une situation sociale. Pas toujours. Si on intellectualise, on devient du champion, quoi. Si on devient, on est tous artistes et on devient du champion, quoi. Mais
Duchamp était loin d'être
aussi. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est les deux.
Duchamp qui est une grande intellectuelle et qui a produit des choses de l'ordre de la pensée, de choses très intéressantes. La catastrophe, c'est les suiveurs de Duchamp, oui. Les petits suiveurs à la petite semaine.
Mais c'est pas...
ce que je veux dire, c'est pas des suiveurs. J'ai rien contre le concept de Duchamp, mais c'est un concept qui est autre, c'est-à-dire que c'est une position qui se défend tout à fait, mais qui est autre chose que ce que je vis, par exemple. Mais... c'est tout à fait possible. Hein. Enfin, je veux dire, actuellement, l'institution, les écoles d'art fonctionnent sur le principe du champion. Hein. Enfin, c'est clair. Enfin, j'y suis dedans, donc je peux vous en parler.
Après Duchamp, on peut dire qu'une partie de l'art est mort, en fait, d'une certaine façon. C'est parce que ce qui se passe là, toutes les personnes qui reprennent, qui font du champ, du ready-made et tout ça, ils sont en train de continuer à faire du champ.
Oui, mais c'est plus compliqué que ça, parce que il y a plein de...
Il y a plein de ramifications.
Bien sûr, parce que la célèbre phrase de Duchamp, c'est il a vu une hélice de bateau, je sais plus, ou d'avion, je sais plus, il a dit... il a vu cette hélice, il a dit la peinture... l'art est mort, l'art c'est ça. Mais bon, il faut situer ça aussi dans le contexte. On était dans une période... il y avait le futurisme, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient dans cette idée...
Le constructivisme.
Oui, aussi. Que l'industrie était là... maintenant, on est dans cette espèce de rejet de la technique, alors que là, c'était vraiment le... c'était quelque chose qui était très valorisé. Il faut aussi... Il faut contextualiser les choses. Mais je pense que ce qui fait l'espèce de poussée qui pousse quelqu'un à continuer à produire, parce que en fait c'est très l'art, ça peut être très encombrant. Enfin, moi je connais des sculpteurs qui savent tout mettre leur sculpture, et on ne fait pas ça. On ne fait pas ça pour un public. On le fait parce que c'est de l'ordre de la sécrétion. C'est quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, je parle à mon nom propre, enfin, l'approche que j'en ai, c'est que avec les amis avec qui j'en discute, c'est pas, je suis ni philosophe de l'art, ni, je suis... voilà,
Joseph Delta, il dit un peu ce que tu dis, il dit qu'un artiste, c'est comme une poule, ça pond un œuf,
ouais.
Et l'œuvre arrive quand on a l'œuf cru.
Voilà, c'est ça. C'est de l'ordre de la défécation. Ouais.
Mais moi, je voulais insister un peu sur ça, je disais le...
Mieux, c'est
effectivement, la...
Oui, mais enfin, c'est du moins
oui, oui. Christelle Carrère.
Oui, non, mais on va pas ouvrir un débat féministe.
Il y a les ovules, c'est aussi...
Je trouve important que quand chacun a le droit de finir ce qu'il a à dire et après, on
prend bien l'air. Excuse-moi. Oui. Parce que je pense à une phrase d'un sculpteur, effectivement, qui était très encombré de ses œuvres, comme vient de le dire, qui est chilien, qui disait si mes souvenirs sont bons, l'artisan il fait ce qu'il sait faire et l'artiste il fait ce qu'il ne sait pas faire. C'est sa prise de risque.
Et justement, ma question, est-ce qu'un artiste, c'est pas un artisan qui arrive au sommet de son art? Et ça évite que tout le monde soit des artistes.
Non, ça n'a rien à voir.
Le postulat au départ n'est pas
le même. Le postulat de départ n'est pas le même. Un artisan a pour but de refaire la même pièce le mieux possible et d'aller au bout d'une technique sur des savoir-faire. Un artiste a pour ambition de faire ce qui n'a pas déjà été dit, ce qui est de l'ordre de...
Non, mais justement, l'artisan arrive tellement au sommet de son art qu'il arrive à dépasser l'objet de son art. Ça peut être un meuble, de la musique, de la poésie, de la peinture, et arriver à faire de la création. Question, hein, c'est tout.
Mais l'artiste est un technicien, ça n'empêche pas.
Oui, ça n'empêche pas que l'artiste est un technicien.
Il n'y a pas de séparation.
Mais c'est même pas tout, c'est ontologique, c'est un peu le départ.
Je reprends, je ne vais pas parler tout le temps. Je veux pas trop...
Mais non.
Mais moi, j'enseigne la technique de la peinture à l'école des Beaux-Arts. Donc, moi, je suis passionné de technique. C'est un sujet qui me passionne. J'ai dévoré tout ce qu'il y avait là-dessus. Et quand je regarde une peinture, je regarde autant ça que la peinture. Enfin, ça fait partie de la... Pour moi, ça fait partie de la peinture. Mais, en même temps, un très bon technicien, ça ne fait pas forcément un bon peintre. Voilà. Ça peut faire un très bon artisan, mais ça ne fait pas un bon peintre.
J'ai travaillé avec des élèves, là, à François Destin, avec un photographe à l'époque de Photofolie. On avait construit une œuvre. C'était François Méchet, hein, le père d'Aurore qui travaille au musée. Et les élèves d'art appliqué à François Destin ont une pratique du dessin, parce qu'ils sont dans une filière d'Italie, et ils ont été au bord de la Yule, puisque François Méchain a réalisé une installation au bord de la Yule, et le principe de son travail, c'est la photo de l'installation qui est l'œuvre finale et le résultat. Et il les a fait dessiner au bord de la Yule, là-bas, sur des croquis de paysage, et puis au bout d'un moment, il a dit, mais ça... Maintenant, vous allez dessiner de la main gauche, parce que ça ne m'intéresse pas ce que vous faites. Vous reproduisez un savoir, ce que vous savez faire, et que c'est l'accident qui va se produire, qui est intéressant, et à partir duquel vous pourrez développer quelque chose. Ou alors, vous dessinez les yeux fermés, et à partir de ce que vous avez... Donc là, on est dans la différence entre l'artiste et l'artisan.
Mais alors, on repose cette question, justement, est-ce que l'art doit, entre guillemets, être accessible à tous? Est-ce que, justement, il n'est pas important que chacun ait accès à ce moment de rupture où il ne contrôle plus, il ne maîtrise plus, il ne reproduit plus par rapport à un acquis ou à des référents qu'il a pu avoir dans son éducation, mais tout d'un coup, il est obligé, par le fait qu'il ne sait pas, d'accepter ce qui va sortir de lui. Et en ça, finalement, ça lui permet, comme à tout à chacun, d'être en proximité, d'être proche et d'être sensible à l'art.
C'est la phrase de Paul Claudel qui disait à quelqu'un qui ne comprenait pas en sortant du meurtre, il disait, mais monsieur, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de perdre connaissance.
Je veux dire se libérer. Il faut être libéré de la technique, de tout ça.
Je vais essayer de l'exprimer. Tu dis, un artiste, il crée une œuvre parce qu'il ne peut pas faire autour. Ça lui tombe dessus, il le fait. Est-ce que ces œuvres ont le droit d'exister en telle, ou est-ce qu'il... Est-ce que ça a une valeur dans le sens que c'est aussi pour les autres? Est-ce qu'il le fait vraiment pour lui-même, ou est-ce que c'est aussi parce que les autres, ils veulent que, comme il a dit, de passer un message.
Est-ce qu'on le laisse libre ou est-ce qu'on se le garde?
Non, est-ce que ça a un sens de le faire? Dans le sens que, parce que ça va amener des gens à réfléchir sur telle ou telle question, ou si, par exemple, pour non, on peut poser la question autrement, si l'art peut exister sans le spectateur, pourquoi on veut amener tout le monde au musée, au théâtre?
Non, mais dans l'écriture, oui, bien sûr, dans l'écriture, il n'y a pas que la peinture.
C'est autosuffisante.
Parmi tous ceux qui
disent. Est-ce que ça a une valeur que quand il y a un spectateur?
Vas-y, Michel, et après.
C'est une réponse par rapport à. C'est une suite.
Ouais.
J'ai perdu un peu le fil de.
Est-ce que tu voulais dire par rapport à l'artiste qui crée pour lui ou pour un public?
Oui, non, oui, voilà, ça y est, ça me revient. Ouais. Oui, parce que je pense que effectivement, on crée pour soi, mais une création, ça a une valeur que si les autres peuvent s'y retrouver dedans. Si ça n'a pas d'universalité, ça n'a aucun intérêt. C'est votre vie, effectivement. Votre vie, ça n'intéresse que vous. Et si les gens ne peuvent pas se refléter un petit peu là-dedans, ça sert à rien. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, à la remarque que tu faisais, effectivement, c'est pas un geste d'autiste là, hein, c'est vraiment quelque chose qui effectivement, moi j'ai retrouvé ça dans notre culture, quand on regarde les objets de notre culture, on se pose la question, mais pourquoi ça nous parle? Pourquoi ça nous parle? Et si ça nous parle, c'est que ça touche à une espèce de fond universel qui est beaucoup plus, disons, primitif et que l'on perçoit sans forcément y mettre des mots dessus, mais que l'on perçoit. Et moi, je considère que peindre, parce que je peins, la première des choses de la peinture, c'est de prendre la peinture et c'est de l'étaler sur un support. Et c'est de sentir la pression des poils, de voir la peinture qui s'écrase. Et c'est des choses... c'est exactement la même chose que quand vous êtes petit, que vous tambouillez la boue, c'est pareil. C'est pareil. Qui est vraiment très, très enfoui. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'art, ça se situe là. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'entendais dire, effectivement, l'école tue. Effectivement, moi, j'ai travaillé avec des petits, petits... Là, vous ne servez à rien. Vous passez les pinceaux, vous passez les couleurs, et tout se passe sans vous. Mais vous êtes au ciel, parce que c'est formidable. Par contre, quand vous arrivez au CM2, déjà, c'est râpé.
C'est net, déjà.
Un crayon, là.
Est-ce que... Ouais, je vais
attends, attends.
Est-ce que...
Attends.
Oh,
moi, je voulais juste une petite évocation pour Valéna. Moi, je sens quand... quelque chose que je vais mettre en public, je vais poser. C'est pour répondre à l'œuf et à la matière fécale. Moi, je parle en tant que femme et que mère, à l'accouchement. Et quand on fait un enfant, on le met au monde. Et pour moi, une œuvre, c'est ça, je la mets au monde. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je l'accouche, je la mets au monde. Elle est faite pour ça. Comme un enfant, on ne le garde pas pour soi. On le met au monde.
Oui, c'est très beau.
Ça dit que si jamais un artiste faisait quelque chose en fonction d'un supposé public, ça serait complètement
dévoué.
Ça n'a pas de sens.
Et ben...
on pose du sens et après, le public s'en empare ou s'en empare pas, avec les moyens qu'il a, mais on n'a pas à répondre à une attente quelconque. Rien n'est...
Et bien justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle l'art de la propagande, l'art officiel, hein, dans les régimes totalitaires, il y avait l'art officiel.
Même dans les religions.
Et là, le message est très clair. Est-ce que vous le considérez comme de l'art ou c'est vraiment de la...
Évidemment non.
Ben oui. Hein.
Mais évidemment mais oui aussi, parce que justement, je voulais rebondir sur monsieur qui dit un truc très juste à la religion. Qui suis un athée, je suis vraiment athée, hein, militant, Athéiste. Je ne peux pas me demander vierge à l'enfant.
Bien sûr.
Parce que.
Ah, oui.
C'est une création humaine. Dans cette espèce de contrainte qui était l'art religieux, l'art est passé. Hein. De toute façon, l'art passe toujours.
Oui.
Même dans les dictatures, l'art passe. De toute façon, c'est irrépressible. C'est un truc, c'est. Ben, à part si on peut nous couper les mains, comme faisaient les Chiliens. Ou
C'est le projet de départ, la différence entre l'art et la culture.
Les Chinois ont coupé les mains des calligraphes. Hein. Moi, je suis revenu de Chine et on m'a expliqué qu'il y avait des calligraphes à qui on avait coupé les mains parce qu'ils ne voulaient pas.
Qu'ils reproduisent.
Voilà. Donc, oui, là, dans ces cas-là, effectivement, une dictature peut empêcher quelque chose. Oui. Mais mentalement, elle ne peut pas.
Voilà. L'art existe, ça existe dans les camps de concentration. Il y a, ça existe.
C'est dans le sens, c'est l'art dans les gens qui détiennent le pouvoir.
Et même, la contrainte, on fait une exposition à la médiathèque en ce moment sur l'Oulipo. Oui. Il y a des artistes que la contrainte, dont la contrainte favorise la création. Ils vont chercher la contrainte pour. Mais c'est pas pareil que l'art officiel. Voilà. Pas pareil qu'un artiste qui se met au service d'eux. Et où là, on délave le sens. On met le sens au service de quelque chose qui est extérieur à l'art. Et pas d'une. Et je parle pour la religieuse, c'est peut-être différent.
C'est différent.
Une conviction qui se traduit par des moyens artistiques, c'est pas la même chose qu'un art qui a un but extérieur à lui-même.
Un but de propagande, d'endoctrinement.
Excusez-moi. Les portraits pour la cour et tout ça, c'est pour un artiste d'être convaincu de la commande.
C'est ce que dit Michel, c'est-à-dire que même à travers des choses officielles,
on peut plus comprendre.
Les interstices
bien sûr,
peuvent passer.
Bien sûr.
Ce que fait Goya, des portraits.
Bien sûr, évidemment.
Terrible, les portraits de Goya.
Évidemment. C'est une commande, mais c'est justement, vous dites que dans l'art religieux, on peut avoir l'artiste qui a une conviction, qu'il est complètement illuminé par la religion et qui fait une œuvre parfaite. Mais ça peut être aussi une commande, comme on fait une commande, et ça n'empêche pas que ça restera dans l'histoire de l'art, parce que c'est une œuvre. Mais après,
aujourd'hui, on fait des commandes publiques. Hein. Ouais. Il y a des commandes publiques à des artistes contemporains aujourd'hui.
Bah, sans arrêt.
Kossuth à Figeac, à l'entrée du musée, c'est une commande publique. Mais entre passer une commande avec des objectifs généraux en disant voilà, on crée un musée et à cette occasion-là, et passer une commande dont on définit à l'artiste les règles qu'il va devoir accepter. Si vous passez une commande à un artiste sur la ville et que vous lui dites « Ah mais je veux pas ça, il faut que ça choque personne, il faut que ce soit plutôt dans les gris, vous voyez, parce que ça doit s'intégrer dans le... » Là, vous avez aucune chance d'avoir une œuvre d'art.
Mais les portraits de rois, etc., ils vont pas s'amuser à mettre tous les défauts du visage.
C'est ce que je vous disais sur Goya, c'est le contraire.
Voilà.
Sauf que les portraits de Goya, il y a tous les défauts.
Bien sûr, mais c'est des gens du peuple. C'est modèle, par exemple.
C'est le roi. C'est le roi.
Oui.
C'est le portrait du roi qui est d'une férocité absolument terrible.
Il a été payé.
Je veux revenir sur le côté spectateur, receveur, ou celui à qui s'adresse là, ou s'adresse pas. Comme tu dis, ça s'adresse, ou c'est pas, tu ne veux pas t'adresser, et quand même, si ça ne s'adresse pas, ça n'a pas de sens.
Ben oui, pas d'intérêt surtout.
Oui, est-ce qu'on peut aider le spectateur à découvrir dans soi ce fond universel à qui ça parle?
Ça s'apprend. En développant sa sensibilité.
Ça peut s'apprendre.
Je pense surtout que ça peut. Il faut désapprendre. Enfin, il faut.
peut déconditionner.
Il faut
déconditionner.
Il faut lâcher. Vraiment lâcher, quoi.
Lâcher prise.
Et c'est très compliqué. Enfin, moi, je le vois enfin, de façon claire quand je vois arriver des étudiants aux Beaux-Arts, et il y en a, il faut vraiment les déconditionner. Déconditionner. C'est, c'est pas. Il y a des gens qui arrivent. Totalement ouverts, qui n'ont pas du tout ce type de problème. Hein. Enfin, je dis déconditionné, c'est un mot affreux. Non, mais c'est une espèce de pouvoir, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la maternelle, vous voyez les petits, il n'y a pas de.
Voilà.
C'est prendre une technique et avec qui noter, c'est comme ça, c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ça vaut 10, ça c'est nul. Quoi. C'est ça qui empêche les enfants finalement de se lâcher, ils ont un modèle et n'osent plus créer vraiment et montrer ce qu'ils sont.
Quoi. En même temps, les techniques, c'est pas.
Il y a Michel Onfray qui parle de l'éducation en parlant d'une éducation catastrophique qui est basée sur des savoirs et pas sur des apprendre à voir. Des apprendre à écouter,
voilà.
Des apprendre à penser.
Mm-hmm.
Et il est vrai que les fondamentaux de l'éducation reviennent vers là. Dans l'éducation populaire, il y a un auteur qui s'appelle Robin Rinucci, qui est directeur des Tréteaux de France, là, et qui a monté un festival en Haute-Côte, qui parle dans l'enfance, pour l'enfant, de passer de la gesticulation au geste, de l'excitation à la concentration et je sais plus le troisième terme dans le et de la tchatche à la parole. Et ça, cette chose-là de maîtriser et d'être conscient de. C'est tout un apprentissage de base qui n'est pas un apprentissage des savoirs, qui est un apprentissage. Quand vous êtes bombardé, qu'est-ce que c'est qu'une couleur? Qu'est-ce que c'est qu'un bleu chez Michel Cure? Des bleus, il y en a. Si vous regardez la télévision, vous en voyez 3. Il y en a peut-être 2000. Où c'est que vous allez apprendre ces nuances-là, ce regard-là sur qu'est-ce que c'est qu'une couleur, qu'est-ce que c'est qu'une ligne, qu'est-ce que c'est que. Ce qui. Ces outils du voir. Mmh. Où c'est qu'on peut les apprendre. Et pas que tel peintre est né en telle année et qu'il est mort en telle année. Voilà.
C'est vrai.
Il faut tenir compte des repères d'identification. Ça, chez les enfants, c'est une étape obligatoire. Mmh. Hein. Tous les enfants font des chefs-d'œuvre. Tous les nôtres, là, à 2 ans, 3 ans, ça commence à se gâter. Mais pas parce qu'on leur dit ce dessin est beau ou pas beau. C'est parce qu'eux-mêmes ont besoin d'images à laquelle ils vont vouloir réaliser parce qu'ils veulent s'identifier à ça. C'est pas forcément l'éducation. Enfin, c'est très large.
Vous avez
dans leur entourage ce à quoi ils
voilà. Vous avez l'air d'accord, vous avez tous d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais moi, je peux vous donner une expérience qui est la mienne et qui est celle, je pense, de tout un chacun, parce qu'on a tous été des petits-enfants, il me semble, hein, et on a tous eu cet instant où, ces instants où on avait cette espèce de liberté. Genre dans la maternelle, où c'est un plaisir de donner la peinture aux enfants et puis qu'on découvre que c'est extraordinaire ce qu'ils font, qu'on se sent complètement plein de trucs en tant qu'adulte à regarder toute cette créativité, toute cette liberté. Et donc on a tous vécu ça. Et d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est plutôt dans l'enseignement. C'est pas, excusez-moi, laissez-moi finir, ne me dites pas non. À partir du moment où je suis rentré en CP, c'est peut-être la faute des enseignants, la succession de je sais pas quoi. Tout était merveilleux jusqu'en grande section de maternelle. Et après, en CP, d'un seul coup, il y avait énormément de contraintes et tout devenait. J'en avais j'étais malade de l'estomac, je pouvais plus aller à l'école tellement. Rien n'était bien, tout était à reprendre, tout était à refaire, fallait tout revoir, tout, tout le monde merveilleux disparaissait, s'écroulait. Et j'ai appris à ne plus avoir mal au ventre. Je suis allé jusqu'à avoir un bac scientifique, etc. Et, etc. et accéder à avoir un prof de philosophie, qui n'était pas un prof, qui était un philosophe plutôt, et qui m'a fait péter un câble. Et je ne savais plus du tout quoi faire. Et je suis rentré dans une école de beaux-arts. Et dans cette école de beaux-arts, je suis tombé sur des gens qui ont à peu près réussi à faire ce que vous cherchez à faire, c'est-à-dire désapprendre complètement. Mmh. Et d'un seul coup, tout a disparu. Je me suis retrouvé de la maternelle à sauter à une autre grande section de maternelle. Mais franchement, hein.
Vous ne faisiez que ce que vous aimiez.
Je découvrais, je ne faisais pas ce que j'aimais, je découvrais les choses.
Je disais ce que vous aviez en vous, que vous aviez à exprimer. Mais malheureusement, les enfants, l'école, elle n'est pas uniquement faite pour ça.
Faites pourquoi
pour laisser s'exprimer les enfants.
Ah, si.
C'est ça le gros souci.
Disons qu'il y a des enseignants qui n'ont rien compris à ce que c'est que l'école.
C'est l'épanouissement. Apprendre à être, c'est... L'école, c'est pour les... Ça doit être un épanouissement. Ça ne doit pas être une...
Franchement, c'est
apprendre à être.
Évidemment. Donc, en fait, je ne pense pas que ce soit la faute des enfants qui... Ce n'est pas les enfants qui se retrouvent à être obligés d'être... qui veulent s'accrocher à des codes, à une reconnaissance, etc. Je pense
qu'ils sont aussi dans un univers où ils sont interagis par quelque chose qui est autour d'eux, les enfants. Ils grandissent. Il n'y a pas que les enseignants. Il y a l'atelier, il y a les parents, il y a aussi...
Il y a l'écran.
Il y a aussi des choses qui travaillent. Il y a des phénomènes qui se passent. Et il y a cet âge-là, comme tu dis, après la maternelle, tout ça. Il y a un livre de Daniel Pennac qui s'appelle « Comme un roman ».